Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, c'est l'heure est grave. Et on se retrouve cette semaine avec l'homme qui, parti de rien, a su se hisser au rang de génie du pinceau. Trouvé dans une poubelle de l'une des ruelles les plus glauques de Tokyo, il a appris de son maître à penser l'art délicat du dessin, de consacrer sa vie et son âme de la première à la dernière goutte de peinture qui coule délicatement le long du poil pour se déposer sur la feuille blanche, promesse d'infinies possibilités créatrices. Adepte de l'art total, il sait convertir son amour pour le travail d'autrui en le retravaillant, le remodelant et lui offrant une nouvelle lecture passionnante, comme sa merveilleuse adaptation du film Le Voyage de Chihiro en cocktail de la mort qui tue, whisky, tequila, vodka, shushen, jet 27, jus d'orange, sauce samouraï, California, avocat saumon, on the rock. Raphaël, bonsoir Raphaël.
Bonsoir Gaspard, beaucoup de shushen.
Avec nous également celle qui, au-delà de son imitation extraordinaire du tétard dans une flaque d'eau, lui a valu 2 ans d'affilée la victoire de l'album de musique organique de l'année, voue une passion extraordinaire pour le syndicalisme ferraillé. Bras armé de la lutte ouvrière pour un réseau de transport plus juste et égalitaire, elle est à l'origine de la création à Paris des premières lignes de chabus et envisage d'ores et déjà le développement du gnou tramway et du métro girafe et éventuellement les premières escargots trinettes. En libre service, Cécile, bonsoir Cécile.
Bonsoir Gaspard.
Enfin avec nous le collectionneur de glands, celui qui sème dans le cœur de toutes les petites filles du pays du soleil levant une multitude de graines qui seront poussées comme autant de passions et d'émerveillements à la lueur de l'éveil de l'adolescence, des premiers rayons du soleil au-dessus de la cime des arbres pour muer en une humanité sans limite et un amour de son prochain immodéré, telle une multitude de tentacules enfouis dans les parties génitales des hentai les plus hardcore du marché. Simon, bonsoir Simon.
Bonsoir Gaspard.
Et bienvenue en prison Simon.
Oui, merci, c'est un vrai plaisir.
Tous ensemble ce soir réunis pour évoquer l'un des films cultes de l'un des plus grands cinéastes du monde, connu et reconnu et jamais vu nu. Il enchaîne pourtant les succès d'estime et public. Ce soir, on s'intéresse à Mon voisin Totoro d'Hayao Miyazaki, sorti en 1988, où, comme dirait son héros...
Un peu plus grave la
prochaine fois. Non, c'est plus grave.
Ouais. C'est super. Tu rends vraiment grâce à la langue, c'est magnifique.
Ça me fait plaisir.
Ou ces héroïnes genre
on parle d'un film où ça crie quand même ce soir un peu,
ah
non
oui. Et c'est pas les films que j'ai cachés sur mon Internet Explorer. Non, ce soir on parle d'un film magnifique. Et Gaspard, tu vas peut-être nous dire un petit mot de qui était ce monsieur Miyazaki, enfin qui il est toujours d'ailleurs.
Oui,
Miyazaki était né le 5 janvier 1941 à Tokyo. Il était dessinateur, réalisateur et producteur de films d'animation uniquement japonais.
Ça y est, je vais trouver la blague pour la bio. Tout faire un homme parfait.
Il dessinait de son son plus jeune âge, était marqué par les stigmates du Japon d'après-guerre. En 58, lorsqu'il avait vu le film Le Serpent Blanc, le premier film d'animation japonais, il avait eu une révélation. Heureusement qu'il n'a pas commencé par le hentai. Il est embauché en 63 alors par le studio Toei, où il se fait remarquer par son travail et son talent. Et en 83, il réalise, alors là, excusez-moi,
son premier
Nausicaa.
Et la Vallée du Vent.
De la Vallée du Vent.
Gros big up à Nausicaa.
Ouais. Yeah. Après avoir publié d'ailleurs les premiers épisodes en manga. C'est un énorme succès en 84.
Oh, celui qu'a fait Naruto.
Et non. Mm-hmm. Non, mais en revanche, il peut ouvrir dès 85. Premier studio, son studio qui s'appelle
Studio Ghibli.
Exactement. Il sort alors Le Château dans le Ciel en 86 avant de faire toute une déclination de château pendant toute sa vie.
Partout.
Mais c'est surtout avec
le
Mon
château
voisin
dans le flanc, c'est celui qui a le moins bien marché.
Le château de la Loire.
Le château de la Loire. C'est lui. C'est
alors,
lui, oui.
Et son plus méconnu, Château Rouge. Château d'eau.
Ah, c'est celui
Château
c'est
d'eau.
Bref, c'est surtout avec Mon voisin Totoro en 88 que le studio connaît alors une énorme réussite. En 89, Kiki, la petite sorcière,
oui,
est également un succès. Mais c'est surtout grâce à l'accord passé avec Disney en 96 qui va lui permettre de diffuser tous ses longs métrages dans le monde et principalement aux États-Unis, qui va connaître une renommée internationale et notamment avec ce qui est considéré comme son chef-d'œuvre en 1997, Princesse
Mononoke. Voilà, exactement. J'adore, c'est trop bien. Je dis tout de suite,
moi
j'arrête de
mieux,
cacher mes opinions.
Et en 2001, Le Voyage de Chihiro reçoit alors de nombreuses récompenses, dont l'Oscar du meilleur film d'animation, également l'Ours d'or au Festival de Berlin. C'est un carton hallucinant au Japon où il fait 24 millions de spectateurs.
Ils y sont tous
sérieusement.
24 millions de spectateurs, c'est-à-dire que c'est plus que nous en France, le plus gros score qu'on ait jamais fait.
Ouais, c'est dingue. Ils sont combien de japonais d'ailleurs?
Bah oui,
ils sont
24 proportionnels.
Ils sont 23, c'est ça qui est dingue.
Hayao Miyazaki alors inauguré la même année en 2001 le musée Ghibli à Tokyo et il a réalisé son dernier film en 2013 qui s'appelait Le Vent se lève, mais il a annoncé également
de vivre. Pardon.
Il a également annoncé sa retraite.
Ouais. Les blagues racistes.
C'est le Asian washing, bravo.
Dans le film, c'est comme ça qu'il dit.
Un épisode consacré à l'amour et au partage des valeurs humanistes.
De la culture
et de l'environnement.
Mais tu n'as pas dit que dans le studio Ghibli, maintenant, il n'y avait pas que Miyazaki.
Oui, c'est vrai. Il y a enfin, Michael Bay qui réalise ses films avec une précision.
Arrête, sérieux?
Évidemment que non.
Ça aurait été bien.
Non, mais il a jamais, de toute façon, il n'a jamais été le seul à réaliser des films au sein du studio Ghibli. D'ailleurs, on pourra revenir sur la production de Mon voisin Totoro qui était lancée avec un autre film en similaire, qui est Le tombeau des Lucioles.
Oh oui, on va pouvoir revenir sur
le
le happy end de tous les temps. voilà, je fais rapidement un tour de table. Quelle est votre relation avec Miyazaki et où étiez-vous le 11 septembre 2001, Cécile?
J'adore. Non, mais je suis une fan inconditionnelle d'Hayao Miyazaki. Je connais depuis longtemps tous ses dessins animés. J'ai été traumatisée comme à peu près tout le monde quand j'étais petite, mais c'est en les revoyant en grandissant que je les apprécie d'autant plus et que je les regarde très souvent.
On peut dire c'est quand même toi qui plus ou moins avait implicitement insisté pour qu'on en fasse un.
Oui, bah d'ailleurs vous avez fait le seul que j'avais vu qu'une seule fois dans ma vie il y a très longtemps.
Et on s'était dit exactement, nous ça fait longtemps que t'insistais pour qu'on fasse bien chez Cécile.
Oui. Voilà. Et du coup ça tombe parfaitement.
La rencontre des deux envies de cette émission.
Mais bon, je ne regrette pas. J'ai beaucoup aimé aussi.
C'est soit ça, soit un podcast où on pète la gueule.
Et alors de Me Too, c'était mal vu.
C'était très mal vu, mais c'est bon. Ouais, c'est pour la saison prochaine. Spoiler.
Et toi, Simon?
Bah écoute, c'était l'occasion pour moi de regarder pour la première fois un Miyazaki en entier. Et c'était une.
Ah ouais, quand même.
Ouais. Je me suis caché.
Tu fais partie de ces gens, quoi.
Ah bah non, mais tu t'es caché. C'est
non, mais
c'est
j'ai pour toi.
Non, mais j'ai 12 ans. Ils ont.
Ouais, c'est pour ça.
Alors dans ce cas-là, tu es censé hurler parce que la vision d'un enfant de 12 ans selon Miyazaki, il hurle
tout le temps quand il court.
Où il est ton papa?
Non, vraiment, j'ai.
Il court comme Olivier Tom avec les deux bras levés.
J'ai du mal à me mettre dedans. Je pense que la première demi-heure était un peu longue. Et
tu parles de l'enfant de 12 ans ou du film là?
Ouais. C'était après. En fait, tu m'as dit. Tout à l'heure, je crois que j'ai vu le hentai. Donc. Les prélis étaient un peu longues.
À cet âge-là, les enfants, ils grandissent, c'est un truc de fou. Ils deviennent longs.
Non, franchement, après, j'étais bien dedans et j'ai beaucoup apprécié ce dessin animé.
Et toi, Raphaël? Mon petit Raphaël, il est où ton papa?
Mais comment vous décrire le truc que tout simplement j'aime le plus depuis bien longtemps? Ce Miyazaki, c'est un dieu sur terre vivant pour moi.
C'était un dieu vivant.
De tout temps, Miyazaki fut un dieu vivant pour moi.
C'est un dieu
non,
mort.
J'ai découvert ça assez petit quand ma mère m'emmenait. On n'habitait pas à Paris à l'époque.
Au
on
Japon
allait...
Ah bah
non,
ça
on
va
allait
la
à
vie.
La PNF. Hajime. et du coup, j'ai découvert Miyazaki avec. Parce que ça, c'est un petit peu un truc dont on va parler un petit peu après. Ça a été développé, mon voisin Totoro, avec le tombeau des Lucioles.
À l'origine, ça devait être un double programme.
Voilà, sauf que moi, j'ai eu le double programme. Donc, Miyazaki, c'était d'abord le tombeau des Lucioles, puis
oui.
Mon
c'est pas Miyazaki, le tombeau des Lucioles.
Non, c'est pas lui.
Mais je veux dire, mon premier feature où j'ai vu un Miyazaki, c'était ça.
Donc, oui, genre, c'était fait exprès que tu passes ensuite Totoro, histoire de rassurer
mieux,
tout le monde.
En fait, ça va, vous inquiétez pas, la bombe H, c'était que les Japonais, de toute façon, on s'en bat les couilles. Non, donc voilà, très rapidement, moi, j'ai un amour fou pour ce truc. Et surtout, je pleure devant tous les Miyazaki, sans aucune exception. Donc, j'ai pleuré devant mon voisin Totoro. Je pleure devant Princesse Mononoke, qui est un chef-d'œuvre absolu. Je pleure devant Chihiro, qui est un.
Il va faire tous les. Miyazaki
absolu. Voilà. Donc c'est magnifique, c'est superbe. Il y a rien à dire. Je pense qu'on peut arrêter tout de suite parce qu'on ne va que souiller mon voisin Totoro et je ne veux pas qu'on souille Miyazaki qui est magnifique.
Alors,
je vous dis à la semaine prochaine.
Mic drop.
Qu'est-ce que t'en as pas pensé?
Moi j'étais un peu comme Simon. J'avais un rapport un peu particulier avec les films de Miyazaki.
Bah tu t'ennuies, non, c'est pas ça?
Je me fais surtout horriblement chier en fait.
C'est-à-dire
que
je vais te planter enculé.
C'est-à-dire que non, j'avais vu Le Voyage de Chihiro au cinéma et j'avais même été interviewé le lendemain, enfin par Le Parisien. Donc si vous cherchez Le Parisien du lendemain de la sortie de Chihiro, et ben vous verrez
le
mon visage
et
c'est enfin un face reveal.
Gaspard, 8 ans, je sais Jeffrey Epstein ne s'est pas suicidé, je le dis maintenant tout de suite.
Non,
sachez-le.
Le mieux c'est que j'avais sorti quel était mon film préféré, c'était Les 101 Dalmatiens. Et que je trouvais génial la scène où il tombait dans le goudron et j'avais déjà un regard pointu et critique sur le
où
cinéma.
Où étais-tu le 11 septembre?
Exactement, en train de regarder la scène du goudron dans Les 101 Dalmatiens. Non mais du coup je me faisais un peu chier, j'avais pourtant regardé, je trouvais ça évidemment magnifique. Après c'était un truc qui était assez loin de moi, je prenais pas l'initiative de les regarder sauf s'il y avait des amis qui voulaient absolument me les montrer et non mais je sais qu'en fait c'est une vraie lacune dans ma culture cinématographique. J'ai commencé à les revoir et mon voisin Totoro hier soir ça m'a déchiré le cœur en fait. Donc je trouve ça magnifique et en plus ce que je trouve dingue c'est vraiment l'influence que ça juste après sur plein d'autres films.
Je te touche la main. Les gens le voient pas mais je te touche la main.
Tout le monde me touche la main.
Je te touche les pieds.
Et non voilà, j'ai trouvé ça très bien. Est-ce que Cécile, tu peux rapidement nous faire un petit pitch de
ton talent?
Alors donc on a deux petites filles, Mei et Satsuki.
Non, Satsuki.
Tatsiki.
Et leur père qui emménage dans la campagne japonaise, mm-hmm. dans une vieille maison un peu pourrie, mais qui sont en train de retaper ensemble avec les copains du village. Quoi.
Et Valérie D'Amido.
Hyper bizarre dans le truc familial. Maman est à l'hôpital, mais Valérie D'Amido est ici. Dans
voilà.
quelle chambre elle dort?
Et du coup, s'ils sont qu'avec leur père, c'est parce que leur mère est à l'hôpital parce qu'elle a une maladie et on ne sait pas qu'est-ce que c'est que sa maladie.
On sait qu'après.
Et donc, ils vont arriver dans la maison qui est un peu hantée, on ne sait pas trop. Et autour de la maison, il y a une grande forêt et la petite fille d'abord. Puis les deux filles vont découvrir un mystérieux personnage, Totoro.
Tout commence avec deux petites filles. Deux petites filles qui ont la fâcheuse habitude de parler très fort.
Des japonaises. C'est terrible ce qui leur arrive.
Alors on a qui, Cécile? On a
Mei. Qui est la petite.
Oui, qui a à peu près 4 ans.
Et Tatsuki.
Alors voilà. Mei qui a une tête de radis. Un peu.
Putain, au début, je croyais que c'était un mec. C'est quand j'ai vu la jupe que je me suis dit, ah oui, ok.
Elle est assez typique des petits.
Des garçons manqués.
Non, des petits sidekicks japonais.
Genre
peu...
Pikachu.
Ouais. Putain, mais c'est Pikachu.
Exactement.
Mais après, ce qui est bizarre, c'est que genre ses parents, ils ont les cheveux bruns très noirs, sa sœur aussi, mais pas elle.
Surtout, en plus, il y a une filiation avec la mère. On lui dit, ah, t'as les mêmes cheveux que moi. Mais bon, elles partent s'installer à la campagne avec leur père. Alors la vision est magnifique. Elles arrivent à la campagne. Elles sont, tout va bien. Tout va bien.
C'est bucolique, hein. C'est vraiment bucolique. Ah, oui. Les couleurs.
À un moment, je me suis demandé si c'était pas des tueurs en série parce qu'ils disent, il faut pas que la police nous voit.
Oui, c'est ça.
Au tout début. Alors elles arrivent et tout le monde est là. Bonjour, comment allez-vous? Ah, oui. Oh, ça va et vous? Tenez, je vais vous aider.
Oui, non, c'est hyper.
Le père, il descend genre de loin. On est là, on est vos nouveaux voisins. Bonjour, vos nouveaux voisins.
Ah mais surtout
ta gueule.
Ah mais surtout qu'il demande au petit où sont tes parents et tu crois qu'il va leur demander un truc ou je sais pas et en fait il fait ah ils sont là et c'est juste pour leur dire bonjour en fait.
C'est quoi ce pays de fous? Les gens ils sont sympas c'est parce que
j'adore, ils débarquent de la ville, ils font alors par contre le coq qui chante le matin c'est pas possible, les églises non plus, là je veux pas de bruit sinon moi je vous colle un procès, attention.
Du coup ils débarquent, ils
c'est
emménagent.
Le Japon profond, c'est de la rizière, ouais, en gros. Exactement. Il y a beaucoup de culture de riz.
Ils se rapprochent en fait parce que il faut se rapprocher
de l'autre.
Se rapprocher de l'hôpital, ouais. Il reste quand même à
3 heures à pied pour un adulte.
Ce qui équivaut à peu près 15 km d'après.
Je suis désolé, votre femme va devoir être soignée à l'hôpital. Danger. C'est où sont les meilleurs spécialistes.
Elle emménage, ils ouvrent la maison. En fait, c'est une maison qui n'a pas été ouverte depuis des années, à mon avis.
Ouais, très clairement. Mais c'est une magnifique maison. Alors, ça, on admet. Quand est-ce qu'on va parler du trait? Parce que c'est magique.
Mais oui.
La maison est très très belle.
C'est une ligne claire.
Non, pas du tout. Et je t'emmerde d'ailleurs. Hein, tu veux, c'est le showdown, c'est ça? Non, mais pour le coup, la maison est superbe.
Ouais.
Enfin, c'est la maison traditionnelle japonaise. C'est une maison d'ailleurs qui a été recréée en 2005 lors de l'ouverture de l'exposition un peu Ghibli qui est permanente, qui a été recréée en échelle 1x1. Donc, t'as la vraie maison qui a été faite.
Elle est superbe, ouais.
Et c'est vrai qu'elle est magnifique. T'as des bains superbes. T'as des...
Alors, attends, on pourra parler des bains après.
Est-ce que tu peux t'amuser à faire bouger le poteau pour faire tomber? Ah, cool.
Exactement. Et celui qui meurt écrasé par le truc, il gagne un prix.
Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils ouvrent la maison, on sent que c'est un peu la poussière partout, ils tirent et tout le truc. Et surtout, les gamines, elles rentrent dedans, mais elles rentrent dedans sur les genoux pour pas que leurs chaussures touchent le sol.
C'est
et qu'elles
aillent pas salir.
Marche sur tes genoux, là.
Ouais, je trouve ça très fort. Bref, ils ouvrent, ils sont aidés par une voisine.
Il y a mère grand, là, qui débarque. Voilà.
Ouais, c'est très clairement
la sorcière. De toute façon, dans les Miyazaki, il y a toujours une vieille grand-mère qui est sympa. Donc, ou pas sympa.
Mais qui a toujours un peu la même gueule.
Oui, qui a toujours un peu la même gueule.
Elle ressemble effectivement à Baba Yaga. Mais la sorcière dans Voyage de Chihiro,
ouais.
Je trouve qu'elle a la même tête, le même genre de ride et les mêmes genres de verrues qui fait toujours c'est pas des verrues mais c'est
des chewing-gums qu'elle se colle dans le front, et après elle peut le reprendre,
elle les met entre ses plis,
les journées sont difficiles.
Il y a aussi Quentin qui est le petit-fils,
ouais.
et non Quentin.
Alors Quentin, lui, c'est déjà un flic en devenir, hein. Il a
casquette
et tout,
il est rasé en mode militaire, genre
il est un peu timide. Vous vivez dans une maison hantée?
Non, il est pas timide,
il est
largement,
quand il monte sa tub à la 12e minute.
Votre maison est hantée. Tout le film il se branle quand il va les. Vous connaissez Totoro là?
Tu veux mon manche à parapluie?
Du coup, Mei, elle découvre dans cette maison.
Enfin, les deux.
Ouais, les deux, mais c'est surtout Mei qui les voit en premier. Des petites boules noires, en fait, qu'elles vont qualifier de noiraudes. Et également, comme tu le disais, des mystérieux glands semés un peu partout dans la maison.
Ça, c'est quand même chelou.
Alors, ça, c'est un truc. Alors, soit elles ont jamais vu de trucs de nature de leur vie, soit elles sont un petit peu tout le temps sur les
ailes. Non, mais attends.
Elles font un gland.
Les noiraudes, c'est comme des oursons, des
boules de suie.
Non, mais je parle pas des noiraudes. Enfin, moi, j'en ai plein à la maison, c'est pas un problème. Mais je parle des glands. Enfin, si elle voit le gland, je suis genre...
Non, mais t'as vu de où? Non, mais t'as vu
de... Oh, t'as voici, un gland!
Il dirait Scratch dans, ouais. dans l'âge de glace.
Non, mais t'as
ça
vu.
Ça serait très bien que May, ce soit ça.
Non, mais t'as vu d'où ils tombent, les glands? Mais...
Bah
oui.
Bah
alors.
En plus.
C'est pour ça qu'elles sont étonnées.
Ouais, mais genre, Axel le regarde un peu.
Non, mais attends. Le gland.
C'est comme si un jour, tu ouvres le robinet et c'est
juste
des glands.
Non, mais le gland, il est doré. Enfin, il est tout scintillant, en plus.
Ils sont dorés, ça, c'est un peu chelou.
Après,
non, ils sont beaux. Alors ça, c'est un truc. Alors, on peut peut-être parler d'un tout début avant de parler du dessin de manière générale. La représentation dans tous les.
Des glands.
Des glands.
Dans tous les Miyazaki, des glands.
Ma thèse là-dessus.
Le gland à travers les âges.
Non, mais dans l'œuvre du Miyazaki.
De la bouffe. La bouffe dans les Miyazaki.
La bouffe. Ah ouais, t'as tellement envie de manger tout le temps.
C'est
horrible.
Superbement dessiné. Donc tout est super. Et t'as vraiment le gland, il est magnifiquement fait, plein de détails, c'est très beau.
Pour revenir sur le début du film, comme c'était la première fois que je le voyais, au début, t'es pas au courant qu'il s'installe.
Que c'est les images elles bougent et du coup truc de fou.
Tu t'as dit c'est trop bizarre, ils ont trop des gueules chelou.
T'as eu où le film?
Vraiment les Japonais sont différents de nous. Hein, c'est...
tu t'attends. Moi je m'attendais pas. On sait pas pourquoi ils emménagent dans cette maison. En fait moi. Oui, tu le sais après. Alors, tu vois un père avec ses deux filles.
Très proche de ses filles.
Très proche de ses filles qui emménage dans un nouvel appartement. Moi, je me suis dit, alors déjà, on parle pas de la mère. Où est la mère? Je me dis, bon, bah, la mère est morte.
Oui, la mère.
Un truc comme ça.
Pourquoi pas un autre père?
Ouais, hein.
Oui, pourquoi pas? Oui, bon, c'est
raciste.
Non, mais on apprend qu'ils sont
donc
très
déjà,
proches.
Déjà, il y a quand même une proximité assez importante entre le père et les deux filles.
Ah oui, non, mais
je confirme. Je reste.
Parce que là, ensuite, t'as la DAS qui est derrière.
Mais ensuite,
attendez, on a d'autres trucs à dire.
Et ensuite, t'as quand même deux enfants qui vont voir des boules de suie, des boules, puis un gland tout luisant. Ah ouais. Et là, je me suis dit, putain, est-ce que j'ai la bonne version?
Ah non, et c'est surtout ça. Et à un moment, elle dit, oh, j'adore regarder au fond du trou, bouge pas.
Non, mais en vrai, dès le début.
Non, mais il y a des lectures, évidemment.
Au début, je me suis dit, putain, qu'est-ce que c'est que ce dessin animé?
Et alors, deuxième point aussi, alors ça, c'est très japonais, on voit tout le temps les culottes des petites.
Ah bah oui.
Ah oui.
Enfin, c'est des culottes méga bouffantes, tu sais pas ce qu'il y a dedans.
Elles ont un gun!
J'ai pas envie de savoir ce qu'il y a dedans. Non, mais on parlait de la proximité entre le père et ses enfants. Ils ouvrent la maison, ils découvrent qu'ils ont des bains un peu traditionnels. Mm-hmm. Donc, bah, évidemment, comme n'importe quel père, tu prends un bain nu avec tes enfants que tu sers contre toi.
Et alors, les enfants?
Et alors, comment dire que j'étais un peu
ça,
mal à l'aise devant
gênant.
Ma télé?
Bah, après.
Surtout qu'il y a deux bains.
C'est ça.
Ouais, un bain.
Non, il y en a une qui est toute nue en plus, qui est affichée direct, elle est pas dans le bain
au
début.
Non, elle se lave
sur le carrelage.
Sur le carrelage, sachant qu'il y a un deuxième bain qui est tout seul et elle est à poil.
C'est ça la campagne.
Et tu la vois.
Tu te laves devant papa, tu tousses bien fort quand tu te penches.
Voilà.
Papa, il est content.
C'est à partir de ce moment-là que j'ai cru vraiment être dans un hentai, mais bon.
Bon, bref. Comme on disait, la mère vit dans un hôpital. Enfin, vit.
Ce jour, elle paye son loyer.
Elle séjourne dans un hôpital à 3h d'ici. Elle est malade, elle a la tuberculose et les filles vont rendre visite avec leur mère, avec leur père. En fait, elles sont très déçues d'apprendre que maman, elle va devoir encore rester un peu plus longtemps à l'hôpital.
Eh ben ouais.
Parce que ça va pas mieux.
Boule noire. Oh.
Les noirs.
Satsuki, elle va à l'école.
Satsuki.
Sauf que bon, Mei, elle s'ennuie un peu, elle est obligée de jouer dans le jardin, elle touche un peu.
D'ailleurs, elle est trop relou parce que son père est en train de travailler et elle le fait chier toutes les deux secondes. Genre, ouais. Elle va bientôt manger.
Elle lui fait un truc trop mignon.
Elle lui donne les fleurs.
Elle lui dit, toi, tu es le marchand de fleurs maintenant. Hop, elle lui pose les fleurs.
Mais lui, il est trop patient, franchement.
Bah,
parce qu'il est genre, ouais, c'est bien.
Ouais, parce qu'il essaie de comprendre. Il fait, mais attends, quelle est la valeur économique d'une seule fleur? Pour savoir avec qui j'échange ça en plus.
En plus, il est professeur.
Il est professeur à l'université.
Il a la voix en VF anthropologue. Du père de Titeuf.
Pardon.
Et oui. Ah oui, exact.
Et oui, c'est pour ça qu'il est patient, parce qu'il a eu Titeuf dans une autre vie.
Et là, les gamines à côté, elles sont cool. Hein. Oh putain, je te rassure.
Et moi, dans l'autre vie, ma fille, je l'appelais Zizi.
C'est pas juste.
C'est pas toi qui me fait flipper.
Et du coup, tu veux prendre un bain avec moi?
Sauf que bon, la petite Mei, elle joue dans le jardin et bon, elle sent quand même depuis le début qu'il y a pas mal de trucs un peu fantastiques et elle va faire la découverte d'une petite bête.
C'est l'heure de déjeuner ou pas encore?
Hein? Non, pas encore!
Regarde les belles fleurs que j'ai cueillies pour toi.
Merci.
Oh, tes petits têtards. Un trou.
Et le petit animal blanc qui s'avère être le premier des petits taureaux.
Il est trop mignon.
Il la voit extrêmement mignon. Il s'enfuit en courant, genre. Et May le poursuit. Elle se faufile sous une espèce de haie qu'il y a au fond du jardin.
Mais non, elle l'a vu aussi avec le petit bleu. Parce qu'en fait, il y a un petit bleu qui est aussi arrivé.
Ouais, c'est un petit Totoro, un moyen Totoro. Et après.
Giga Totoro. Évolution.
Tu es tombé dans mon piège.
Elle les suit dans la forêt, un peu, façon Alice au pays des merveilles, le petit lapin blanc. Elle le suit.
Un petit Émile Louis, un moyen Émile Louis.
Giga Émile Louis.
Elle tombe dans sa tanière et alors là, elle est prise au piège.
La tanière qui est en fait sous l'énorme camphrier qui est dans le jardin.
Qui est un très 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 grand arbre.
Gigantesque.
À peu près la taille de la tour Montparnasse, hein, vu la proportion.
Voilà.
Oui, vu la gestion des proportions par Miyazaki, c'est un peu ça. Mais du coup, elle tombe sur Totoro qui est en train de dormir.
Calme.
Il a pas de nom, mais il fait Totoro.
Pour l'instant, il dit rien.
Il dit rien du tout.
Il fait dodo.
Il fait dodo.
Mais le chatouille un peu. Il se réveille. Il fait.
Il a l'air tout. Voilà. Et c'est elle-même qui dit Ah, t'es Totoro. Ouais.
Parce qu'elle le reconnaît de son livre d'images.
Voilà, parce qu'elle a un livre d'images avec.
C'est là où on peut faire l'explication lacanienne en expliquant que en fait c'est Totoro
avec un U à la fin
en japonais et en fait elle le prononce mal parce que c'est une petite fille. Elle dit Totoro. Et en fait ça veut dire troll.
C'est ça.
Et en fait elle le prend pour un troll. C'est ça.
Bah un troll gentil, japonais.
C'est toi les mecs qui fait des vannes sur internet.
Il est énorme, il a une vieille barbe.
Il est au fond de sa station, de sa
tanière. Mais
de toute façon, j'aurai jamais de meuf, là, c'est ce que c'est trop des putes.
Donc c'est vous préférez les mecs qui dansent, c'est ça.
Le premier des incels, alors il a un poster de Joker derrière lui.
Et une énorme mèche, je suis
Et donc c'est Totoro qui est une sorte d'énorme peluche qui ne parle pas, qui a un énorme sourire, un peu comme le chat à nouveau dans Alice au pays des merveilles, et qui fait juste.
Ses dents sont un peu flippantes. Hein, comme
La première fois que j'ai vu Totoro, enfin, c'était pas dans ce film-là, c'était dans Icassos.
Et donc, Totoro.
Oui. Et là, il se fait décapiter. Je me suis dit, il va y avoir un truc. Quand je vois la gueule de la bouche de Totoro, je me dis, il va vraiment y avoir un truc chelou, elle va être enfermée dans son bide et on part dans l'animé.
Il joue beaucoup de ça, parce que vraiment, on a un plan depuis la bouche quasiment de Totoro.
Elle est gigantesque.
Il nous montre les dents, sauf qu'il y a un côté limite rassurant, en fait. C'est qu'on sait tout de suite que Totoro. Moi, je trouve qu'au début, elle pourrait dire, enfin, c'est vraiment, ça peut être genre. La petite May, on l'a retrouvée genre déchiquetée.
Ouais, c'est grave.
Oui, non, mais genre, c'est ça.
Et en fait, elle le voit et tu sais tout de suite qu'il est amical en fait.
Elle tombe sur Totoro et fait ok, lui c'est un malade. Il va me tuer.
Non, mais c'est aussi ce qu'il y a un peu dans tous les films de Miyazaki où tu crois être dans un univers où tout le monde est gentil, tout le monde est beau, etc. Mais il y a toujours un truc monstrueux, bizarre derrière, tu vois.
Totoro a 2 ans de tweet homophobe.
Ouais, c'est ça. Derrière. C'est clair. Là, tu vois, c'est
Ligue de Totoro.
Tu es vraiment le meilleur. Et là, genre, tu vois les screenshots de lui avec la pancarte. Le truc qui indique sa taille et
le
tout
mugshot.
Ça. Genre, Totoro a déjà été interdit 15 fois avec des enfants. Non mais alors pour le coup, pardon, on peut venir à d'où vient en fait toutes les histoires que Miyazaki développe. Finalement, c'est des histoires qui sont inspirées du folklore japonais et notamment principalement des esprits de la forêt. Mm. Et les esprits de la forêt, t'en as. En fait, c'est jamais des esprits qui sont bons ou mauvais.
Voilà.
C'est des esprits tout simplement.
Ils sont là.
Qui sont là, qui sont changeants et qui tolèrent les humains de manière. Parce qu'il y a un truc qu'on dit au début de Mon voisin Totoro. C'est Granny qui leur dit tu pourras voir les esprits si eux veulent bien que tu les vois, s'ils considèrent que toi t'es gentil.
C'est ça.
Et innocent aussi, parce qu'on a quand même le lien avec le fait que les enfants peuvent ces créatures-là, pas les parents et pas Kanta.
Et Kanta. Kanta, il est déjà un peu fucked up dans sa tête.
Ouais, mais c'est ça, donc du coup, il peut plus les voir. Donc faut avoir une part d'innocence.
Non, mais Kanta, il voit des esprits, mais c'est pas les mêmes.
Il voit des tubs.
C'est bien plus dark. C'est Totoro qui encule les enfants sur le coin de la rue. C'est horrible quoi.
Kanta, il voit Eric Zemmour qui se balade derrière côté. Tu savais qu'il y avait trop d'arabes au Japon.
La taille du soleil, enfin c'est horrible. Bref.
Mais là, déjà, on a toutes les thématiques de Miyazaki qu'il y a dans tous ces films. La nature, les esprits, les petites filles qui sont toujours d'ailleurs des personnages féminins qui sont les plus forts dans les films de Miyazaki. Et voilà.
Et on peut à nouveau voir un lien avec le tombeau des Lucioles où c'est à nouveau, c'était un garçon et une
petite
fille.
C'est la bombage qui gagne.
Non, mais c'est deux petits enfants qui affrontent leur peur et l'idée de perdre peut-être maman ou papa en voyant animaux qu'ils n'ont pas vu ailleurs. Bref, tout le monde est inquiet parce que May a disparu. Satsuki et son père commencent à la rechercher. Ils la retrouvent dans la forêt endormi.
Très tranquillement.
La culotte baissée.
Mais qui a été au passage changée d'endroit par rapport
oui,
au,
elle était pas,
là où elle a dormi sur Totoro.
Il la trouve pas dans la caverne à Totoro.
Exactement.
Elle Totoro l'a chopé.
Pas dans le gorget.
Je reconnais, c'est la signature du Totoro, ça. Il les viole toujours comme ça, hein.
Donc elle dit j'ai vu Totoro, elle commence à chercher et en fait ça devient une sorte de comme Mario 64 où
quand tu fais demi-tour
on pensait qu'on montait dans l'escalier vers Bowser, en fait on ne monte pas et elle ressort toujours de la forêt. Totoro est introuvable quand on se met à le chercher.
Voilà.
Donc ses parents sont, enfin son père est un peu en mode genre on va peut-être te mettre chez Montessori.
En vrai je trouve pas.
Mais pas du
tout. Je pense que il y a une part de
non son père est assez bienveillant.
Il est bienveillant mais vas-y vas-y.
Encore plus de que ça c'est enfin non seulement il est bienveillant mais en plus il est pas dans le fake, il dit pas enfin on sent que derrière son émotion il y croit pour elle.
On a l'impression qu'il l'a vécu quand il était enfant,
voilà,
et que à son tour il dit super ma fille ma fille d'abord.
Et c'est lui qui
croit,
lui
quoi.
Dit que c'est l'esprit de la forêt.
Ouais, on a l'impression qu'il aime le truc et que sa fille n'est pas folle quoi.
Et en fait il l'a jamais vécu puisqu'il dit au début j'ai toujours rêvé d'avoir une maison comme ça, d'être dans une maison hantée, et en fait c'est le alors ce Miyazaki c'est le Miyazaki le plus bienveillant. Les petits enfants, tout se passe bien, tout va bien se résoudre à la fin, alors que t'as très clairement dans le voyage de Chihiro des trucs qui sont beaucoup plus borderline,
là,
des trucs un peu tristes
de
qui
voir
se passent.
Que...
Et...
Ouais, que après avoir vu tous les autres Miyazaki, de voir que dans celui-là, les parents, ils sont aussi du côté des
ouais, exactement.
Des
le
enfants.
Parent, il est compréhensible, il dit pas « t'es couillon ».
Non, oh, il est fou. Oh, il est fou. T'es un malade, toi.
Tu vas voir maman, toi. Tu vas voir maman.
Tu vois, c'est ta maman. Ta maman, elle avait aussi Totoro. Bah, tu veux vite où elle est.
Le lendemain, le père retourne à l'université travailler parce qu'il est professeur, comme nous l'a dit Cécile. Et la petite May n'a pas envie de rester toute seule. Elle pique une crise pour rejoindre sa sœur à l'école. Là, je pense que c'est peut-être la seule fois où vraiment j'ai failli pleurer, c'est ce plan où elle prend sa sœur dans ses bras. Elle ne bouge pas, elle ne dit rien, elle la serre. Tu sens qu'elle la serre de toutes ses forces.
C'est la deuxième fois où j'ai pleuré.
Et il y a la larme qui coule sur sa joue en mode genre je veux pas que tu me laisses, je veux pas être toute seule. Papa n'est pas là, maman n'est pas là, je veux être avec toi.
C'est sa deuxième maman.
Exactement. Elle passe la journée en classe avec sa grande sœur Tatsuki et elle ne parle que d'une chose. Elle parle de
Totoro. Totoro.
Et vient le soir.
Il faut rentrer, il faut prendre.
Et là il pleut.
Et oui.
On a un petit geste de gentillesse de la part de Kanta qui file son
parapluie. Ouais, mais en fait, tu sens qu'il est.
Il a laissé son numéro dedans, mais en fait, elle l'a pas vu, il est tombé.
C'est super mignon parce que tu vois au début, tu dis putain, lui, il a une tête de con. Et quand tu vois la scène où il passe le parapluie en mode gêné, limite, je suis amoureux.
Bah oui, il est
c'est
amoureux.
Trop mignon cette scène. Enfin, il lui balance, il dit rien, il s'en va en courant.
Ouais.
Il balance le parapluie, il y a là la drogue dedans, c'est parce que t'as les keufs qui arrivent. C'est pour ça qu'il se bloque au début, genre, tiens, prends mon parapluie là. Allez,
prends le rôle, je te dis.
Allez, bref, May et Tatsuki, elles décident d'aller attendre leur père à l'arrêt de bus. Il se met à pleuvoir. Tatsuki, elle prend sa petite sœur dans les bras, elle met le parapluie.
Ah oui, parce qu'elle s'endort.
Parce que la petite s'endort.
Et mais elle veut pas partir. Elle veut pas aller attendre avec.
Il faut attendre papa. Papa n'est pas là. Papa n'est pas dans le premier bus, mais on va attendre papa sous la pluie. Et là arrive.
Vous n'auriez pas dû venir dans cette forêt toute seule, les enfants. Il est tard, les enfants. Vous allez rentrer.
Coup d'œil à droite, coup d'œil à gauche.
Chop, deux enfants. C'est la voiture qui s'arrête et hop là.
Donc arrive Totoro qui arrive sous la pluie.
Qui veut prendre son bus lui aussi finalement.
Oui.
Comme un citoyen honnête.
Ce que j'ai, c'est qu'il arrive.
Le gars, c'est le patron de toute la zone.
Il se met à côté des filles. Et tu sais, il la regarde même pas, il dit pas bonjour, il est juste en mode genre, bah oui, j'attends le bus, quoi.
Et tu sais, il se gratte un peu la fesse.
Exactement.
Ouais, mais c'est Bjorn.
Ça, par exemple, je trouve que c'est un moment de mise en scène extraordinaire parce qu'on est du point de vue de Satsuki. Et en fait, comme
c'est
elle
la première fois qu'elle le voit.
Comme elle a le parapluie sur elle, on voit qu'elle ne voit que les pieds. Et d'un coup, elle voit les pieds de Totoro arriver. Elle arrive pas à se pencher complètement. Elle voit les griffes, le mec, il se gratte les fesses.
Ouais, déjà, il y a des griffes.
Elle a un geste énorme. Elle se penche, elle retient cette sœur de l'autre côté pour être sûre de voir Totoro. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui passe le parapluie parce qu'elle en a un second.
Parce que du coup, Totoro, il s'était fait un petit chapeau feuille.
Oui.
Qui était pas hyper utile.
Oui, ça faisait, non, ça faisait
sur le nez, puis son nez.
Et elle lui passe le parapluie.
Son parapluie.
Et elle lui éduque, elle lui dit, le parapluie, faut que tu le prennes, tu le mets au-dessus de ta tête. Et Totoro.
Il est trop saucé.
Non, mais en plus, il y a un autre truc qui est super drôle. Là, t'as une énorme gouttelette qui s'accumule, qui tombe sur le parapluie, t'as un gros bloc.
C'est rigolo.
Et après, t'en as deux, trois. Et puis là, il saute.
Et il y a toute la forêt.
La flotte de la forêt accumulée sur les feux qui s'abat sur
le parapluie. Et il arrête de pleuvoir.
Ah ouais, bah là, c'est
tellement il a fait ça, il arrête de pleuvoir. Toutes les gouttes sont tombées.
Et lui, il s'est tapé des grosses barres.
Alors, encore une fois, c'est un passage aussi qui est comme la première rencontre avec la gamine et Totoro. C'est un mélange de il va se passer quelque chose, tu sais pas quoi.
Ouais.
Moi, je m'attends toujours à ce qu'il se passe finalement enfin quelque chose de dramatique pour lancer l'histoire. Et en final.
Ah oui.
Mais c'est ça aussi, c'est une des particularités de ce film. Ouais, c'est un film.
Hein.
C'est contemplatif. Il n'y a pas d'intrigue. Il n'y a pas de méchant.
Seulement, il va y avoir un enjeu, ça va être un.
Oui, c'est après, mais ce qui fait que pendant une heure de film sur une heure et demie, t'as rien. T'as une histoire, tu suis juste un truc.
Et là, en fait, ce qui va arriver, c'est finalement un autre personnage hyper fétiche de mon voisin Totoro.
Bah,
c'est le
Chabit.
C'est le Bus, pardon.
C'est le Chabit. Chabat, Chabus.
C'est Fabius. C'est Laurent Fabius.
Qui là, pour le coup,
c'est le Fabius.
Qui pour le coup ressemble beaucoup au chat de
Alice au Pays des
Merveilles. Et on admirera les phares souris.
Ouais.
Et elles sont vivantes.
Oui, qui.
C'est un chat friendly.
Exactement.
Qui regarde quand ça change le panneau.
Et surtout, c'est un peu terrifiant parce qu'il a, au début, je trouve, moi, il a un regard qui me terrifie, ce Chabus. Moi, je ne montrerai pas
de nom. Il extase le chat.
Sauf que.
Il fait très très peur.
Il a ce. Quand il s'ouvre pour laisser rentrer les gens dedans, et en fait, on comprend qu'il est absolument bienveillant.
C'est le même bruit que la chat... Zoé de Renault.
Exactement. Il a 9 pattes, ou je sais pas combien, et en fait, Totoro monte dedans, fait coucou.
Il donne, avant de partir, il donne un petit cadeau
aussi.
Il
donne un petit cadeau qui est une sorte de baklava, là.
C'est exactement
c'est...
ça.
C'est des grosses boulettes.
C'est un baklava, oui, c'est le gros bon gontage, mon gars. Et il en prend ça, tu vas voir le Chabus tous les jours, mon gars, tous les jours.
il se barre avec le Chabus en mode. Et les filles, elles sont en mode.
Elles
genre...
sont en mode choquées. Bah, comme
oh putain.
What the fuck? Comme tout un chacun, finalement.
Ouais. Oh putain. En fait,
mon parapluie.
Elle a pris la drogue du parapluie.
Ouais, déjà. Ouais.
Quentin, et elle est ailleurs. Arrive donc le père qui descend. Je suis désolé, les filles, je suis en retard. Et elles sont en mode. Mais tu ne te rends pas compte. Tu ne te rends pas compte. On a vu Totoro. Elle décide le lendemain d'écrire une lettre à leur mère en leur disant « Maman, tu ne te rends pas compte, on a vu Totoro, Totoro existe, Totoro vit à côté de chez nous, il nous a filé un cadeau, il nous a filé des graines en fait, ce sont des petits glands qu'il lui a donné.
» Original.
On les a plantés au fond du jardin et May les regarde et les arrose tous les jours, elle veut absolument que ça pousse.
Donc elle a écrit ça dans une lettre pour la mère, le père a mis PS, chérie, garde-les à l'asile. Hein,
c'est clair.
Je veux bien faire gentil dès le début, mais
je ne comprends pas. Écrire, mais elles font des signes hyper bizarres depuis tout à l'heure. Même pas de droite à gauche. Incompréhensible.
Je comprends rien de ce qu'elle raconte. De toute façon,
elles ont un petit paquet à la main.
Je
là, depuis vendredi.
Tous les soirs au fond du jardin, donc à mon avis, ça ne va jamais pousser. bref. Sauf qu'un soir, elles se réveillent parce qu'elles entendent genre. Et en fait, c'est
les trois petits Totoro.
Et le gros,
et les deux petits Totoro.
Il a encore son parapluie.
Et les petits sont fabriqués des petits parapluies avec des feuilles.
C'est trop mignon.
Et alors, ils font quoi?
Et du coup, ils se mettent autour du carré là où les trucs ont poussé. Ils sautent par-dessus. Et là, t'as Tatsuki qui réveille Mei parce qu'elle est réveillée et qui dit, oh, regarde, ils sont là. Et ils vont les rejoindre. Et là, c'est la danse de la feuille.
Ouais, en fait, il fait une sorte de. Oui. Pour faire pousser les arbres et en fait des plantes poussent et apparaissent même un énorme
on a l'impression que c'est un deuxième camphrier
exactement. Ouais. Et arrive une séquence que moi je trouve dingue et en fait
et là, Inception.
Là, oui, c'est Goldman Fock.
Non, mais je comprends pas comment un homme a pu pitcher ça. C'est-à-dire qu'il est allé voir ses producteurs, il a dit,
sur un paperboard.
Là, il y a le sorti de petit nounours, enfin, il y a les trois, et l'autre, il a son parapluie, alors il prie au-dessus des plantes, et les plantes, elles se poussent en arbre, et là, il y a la toupie qui tourne, et alors, le gros nounours, il monte sur la toupie, seulement lui. Et après, les autres nounours, ils montent sur lui. Et les gamines, elles montent sur lui.
Et
après.
Et ils montent dans l'arbre.
Ils montent dans l'arbre.
Et ils jouent de la flûte.
Exactement.
Des trucs qui ressemblent à des ruches.
Alors, d'accord. Mais en fait, là, on est à Châtelet. De quoi? Vous descendez? Ou faites quoi? Vous arrêtez de bloquer les portes, s'il vous plaît.
Mais je ferai. Trop de transport.
Je ferai tout ça à la main. Ça va être merveilleux. Merveilleux.
Et ben, en effet, on a une des plus belles scènes. De mon voisin Totoro.
Avec la musique qui est d'ailleurs canon. Qu'elle dédie à Joe Hisaishi.
Et ben, tu sais quoi? Faudra qu'on en parle. On en parlera juste après ça.
L'arbre n'est plus là. Ça a marché. Ça a marché. C'était pas un rêve.
C'était un rêve.
C'était pas un rêve.
C'était un rêve qui n'était pas un rêve.
Youpi.
Le lendemain, les fillettes aident la vieille dame grand-mère à pêcher ses légumes.
Et là,
les légumes.
Et là, c'est le drame.
Et là, c'est le télégramme drame. Parce qu'en fait,
télégramme.
En fait, elles reçoivent un télégramme de l'hôpital. Enfin, on la fait courte. Maman va pas bien.
Voilà.
Maman doit rester à l'hôpital alors
c'est
que maman était censée sortir.
Whoop whoop. Assassin de la police.
Bon bref, ça fout la merde complètement puisque les petites, elles s'attendaient et surtout May s'attendait vraiment à revoir sa maman.
Elle est un peu triste.
Et oui,
elle est un peu
plus que triste.
Elle est très
fait,
triste.
Elle a même peur que sa maman décède.
Elle garde contre
oui,
elle un épi
horrible.
De maïs depuis le début.
Et elle... Qu'elle veut donner à sa maman quand elle rentrerait, mais elle ne rentre plus.
Exactement. Et elle s'embrouille du coup avec sa grande sœur.
Elle devrait peut-être lui lâcher l'épi de maïs puisqu'il a tendance à faire...
Le père décide donc d'aller voir sa femme à l'hôpital. Il laisse les filles gardées par la voisine. La grand-mère tente de rassurer les petites. Mais Satsuki, en effet, elle est terrifiée à l'idée de perdre sa maman.
Mei ou Satsuki?
Satsuki.
Ah, Satsuki.
Bah, les deux aussi.
Satsuki.
Bah oui, les deux.
Sauf que Mei...
Et en plus, ce qui est intéressant là, c'est que du coup, Mei voit Satsuki qui craque.
Ah oui, donc c'est son modèle qui...
Et du coup, ouais, quand t'as une grande sœur et tout, tu sais que dans les moments de familiaux, quand tu vois ta sœur craquer, t'es là, ok, c'est la merde.
C'est la grosse...
Genre, c'est la merde. Et du coup, tu t'identifies vachement.
Elle la voit qui craque,
et
du coup, elle prend la grosse
boule. Et du coup, elle se barre.
Elle se barre. Satsuki, donc elle se fâche avec sa mère.
Avec sa sœur.
Excuse-moi. Donc, Satsuki se fâche avec sa sœur. Mei a disparu. Mei devient totalement introuvable. On croit même, et alors là, c'est quand même le petit teasing de la mort qui tue.
Ouais, de ouf.
Puisqu'on retrouve une sandale sur un lac.
On se dit, enfin une intrigue.
C'est clair.
On retrouve une sandale.
Ça commence.
Il nous faut une Memories of Murder, très clairement.
Ouais, c'est clair.
Il nous faut une Memories of Murder. Et le truc qui m'a fait hurler de rire, c'est que on voit grand-mère qui regarde la sandale et en mode s'il vous plaît que ça soit pas la sandale de la petite, s'il vous plaît que ça soit pas la sandale de la petite. Satsuki revient, elle dit non, c'est pas la sandale de Mei. Tout le monde est là en mode c'est bon, on arrête les recherches.
Mais c'est
ta qui en mode genre il y a peut-être une gamine en fait qui s'est vraiment noyée là.
C'est la sandale de qui du coup?
Totoro. C'est ma sandale. Totoro qui mange les enfants qui ne le voient pas.
Non, mais après,
vous avez croisé Totoro? Mais c'est un malade.
Mais ce qui est bien, c'est que du coup là tout le village est solidaire,
exactement,
sauf les deux connards en voiture.
Ah oui.
Que Satsuki croise.
Ah oui, j'adore.
Et il leur demande genre, oui, d'où tu viens et tout. Elle fait, ah, bah, je viens de là. Ils font, ah oui, c'est vraiment très loin. Et c'est au moins 3 heures de marche et tout. Bon, bah, salut.
En plus,
et ils s'en vont sur leur voiture, là, qui roule.
C'est horrible.
Et ils laissent Satsuki rentrer à Yep. Ouais. Alors qu'ils savent exactement combien de temps ça prend.
Ils vont dans la même direction, en plus.
En plus, ils vont dans la même
direction. Des putains de citadins.
C'est clair.
C'est ça. Elle était tellement mignonne, cette petite fille à marcher avec ses pieds.
Ah, c'est clair.
C'est superbe, j'admire l'effort.
Sauf que Satsuki, elle est totalement
désespérée. Ça, c'est la campagne.
Elle est persuadée que non seulement on va perdre sa mère dans quelques jours, mais là, elle vient de perdre sa petite sœur.
Du coup, il faut demander de l'aide.
Il faut demander de l'aide.
Et attends, au seul, à l'unique. À ce moment-là, le père, il est encore en train de taffer. Donc, il est toute seule, non? Là, il n'y a plus personne.
Non, le père, il est à l'hôpital.
Il est à l'hôpital.
Ah ouais. Ah bah, il n'y a plus personne.
Il y a eu un petit coup de fil avec le papa
et le village.
Il faut faire appel à Totoro.
Totoro.
Et Totoro, qu'est-ce qu'il appelle?
Le chabit.
Non, mais c'est comme si un jour t'avais un problème, tu vas voir un de tes potes, j'ai besoin d'aide, il fait, t'inquiète pas, la RATP est là.
Et c'est là que je peux placer mon jeu
de mots. Vraiment, je vais perdre ma mère, en fait. La RATP, mon gars.
Je vais placer mon jeu de mots préféré. Rentre avec tes pieds.
Plus drôle que la blague de Raph ou pas?
Oui, ah, quand même.
Mais
attends.
Bien plus marrant.
Au moins, il y a un effort.
J'ai essayé de te sauver.
Je me casse en cul. Et du coup, le chabus prend en charge Mei et, enfin, pardon, Satsuki, et il l'emmène.
Direction Mei.
Direction Mei. Alors, il marche sur le câble.
Ah, c'est un funambule, le chat.
Hein. La gamine est morte électrifiée. Enfin, c'est horrible.
Ouais, c'est clair.
Il retrouve.
Regarde cet enfant, bientôt tu rejoindras son sort. Bienvenue dans le chabus.
Il retrouve Mei. Il retrouve Mei qui finalement est perdu. Très très loin.
Ouais, complètement paumé.
Avec son épi de maïs contre elle.
Elle est pas très persévérante d'ailleurs. Tu voulais voir ta mère, connasse? Bah, continue à marcher ou quoi?
Bon. Mais elle voulait aller à l'hôpital, du coup, donner l'épi à sa maman.
C'est
et du coup, le chat, il comprend. Et du coup, direction.
Et puis là, c'est...
L'hôpital.
Petit changement d'adresse.
Oui.
Ring. Non, tu sais, petit changement d'adresse. Morgue. Quoi?
Asile. Asile.
C'est morgue et après, il enlève rapidement et il met hôpital.
Non. Hôpital. Allez, on y va, les enfants.
Et si on allait chez Toys R Us? Prenez ce que vous voulez, c'est moi qui vous l'offre.
C'est cadeau.
merde.
Moi je vais leur dire McDo. Non, McDo, tu vas McDo. Bon, alors maman a fait un long voyage. Elle a pris un chabus qui l'a emmené très très loin.
Elle est partie avec le chien, tu te souviens, le chien?
Bon, bref, ils arrivent, le chabus les emmène à l'hôpital et elle dépose alors l'épi de maïs sur
le rebord
de la fenêtre.
Après avoir vu que maman en fait
était avec papa.
En fait, ça va, c'est juste
à quatre pattes en train de se faire tirer les cheveux par papa.
Et qu'il y avait des si beaux cheveux.
C'est clair.
C'est ouf.
Il il reste sur la branche et en fait la mère elle découvre l'épi de maïs et elle comprend en fait que c'est fille parce que vient de passer parce que c'est signé.
C'est signé. Ouais.
Pour maman.
C'est trop mignon.
C'est pour maman.
Et là tu repleures.
Et ce qui est trop beau c'est qu'on sait pas si elle va guérir ou pas mais au moins à ce moment là.
On aura un petit indice ensuite parce que bon là on peut le dire on arrive à la fin du film.
Je veux dire à ce moment là du fin du film on sait pas si elle va guérir ou pas mais l'essentiel c'est qu'elle la voit et qu'elle a l'air bien quoi.
La mère est ravie de voir que ses filles pensent à elle et donc la vie reprend son cours ensuite. On découvre même que Totoro lui il continue de jouer tranquillement
sa petite l'ocarina là.
Exactement parce qu'en fait il faut quand même le dire c'est que Totoro bon il a eu que 4 scènes dans le film.
C'est ça. Il joue de la gratte sur le haut de son arbre.
C'est ça.
Anyway
c'est le pire babos
Babylon. Tes flics sont tous des bâtards. Yeah yeah yeah.
Et en revanche il a quand même gardé le petit parapluie avec lui.
Ah ouais, ça c'est
Hashtag trop mimes. Et alors on termine quand même sur une musique. Et il fallait le dire, on termine quand même sur des musiques. On n'en a pas parlé de Joe Hisaishi. Les musiques, moi c'est ce qui me fait pleurer en fait dans les Miyazaki de manière générale. C'est juste que c'est magnifique quoi. Quand t'as l'envolée, tu découvres la forêt. Ou quand t'as Totoro qui fait la scène où il fait pousser les graines. Puis après il s'envole. Exactement, c'est très très beau, c'est très très beau comme musique.
Big up à Joe Hisaishi et pour toutes les musiques de tous les films d'Hayao Miyazaki qui sont absolument magnifiques.
Surtout big up à Joe Star.
Big up.
Et facile à reproduire au piano.
Et c'était mon voisin Totoro, qui est quand même plus sympa que mon voisin du dessous.
Bâtard.
Non, mais voilà, un très très beau film de ce monsieur Hayao Miyazaki. Je peux le dire, hein, je peux remercier. C'est quand même Cécile voilà, qui nous a forcé, qui nous a mis le pied à l'étrier pour qu'on fasse...
un Miyazaki.
Exactement.
On va dire que moi, j'ai été accomplice, quoi. J'ai été très content. C'est vrai que c'est ça vient de toi, Cécile, et bravo.
Voilà.
Le courage.
Commençons. Dans ce cas-là, Raph, ne lâche pas. Continue, toi qui allais dire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce voisin Totoro de Miyazaki? Est-ce que ça a été vraiment une révolution dans ta tête?
Eh ben, je sais pas comment est-ce qu'on peut parler du truc qui tout simplement t'anime et te fait te lever tous les jours pour aller affronter une vie qui est de plus en plus dure.
Si ce n'est une maladie vénérienne.
Oui, exactement. Parce que j'ai besoin de me lever pour pisser. J'ai hyper mal.
Ou une tuberculose.
La tuberculose. Non, c'est essentiel. C'est un truc qui a structuré mon enfance et aujourd'hui me fait marcher. Littéralement, ça fait partie des œuvres qui te font grandir. Je sais pas comment exprimer des émotions aussi fortes. Je parlerai juste de deux choses. On n'a pas vraiment parlé du dessin. Mais le dessin, c'est juste magnifique. C'est tous les paysages sont faits à l'aquarelle.
Je vois trop les profs dans les facs de dessin ou les écoles très précises. Vraiment Miyazaki.
Là, ils écrivent. Et à côté, tu vois, comment t'écris?
Oui, oui, monsieur.
Eh ben, ils sont en fac des beaux-arts, ils sont pas en fac de lettres, les couillons.
Hein. Non, vous avez pas pu aussi.
Non, c'est.
Mais vraiment, hein.
Là, tu vas sur Adobe, tu mets l'option.
Tu fais le kiss, là. Non, mais du coup, c'est vraiment magnifique. On a un peu parlé des musiques, mais tu sais, si tu nous en parles un petit peu plus, peut-être. Joe Hisaishi, c'est juste incroyable ce qu'il a fait. T'as envie de pleurer dès que t'entends un truc. C'est pour ça que je pleure à chaque fois. Voilà, pour moi, c'est juste magnifique. C'est essentiel. C'est un truc qu'il faut tout savoir. Il faut tout voir, d'ailleurs, parce que tout est sympa, tu vois. Que ce soit mon voisin Totoro.
Tu commences avec mon voisin Totoro, comme ça, c'est encore un peu family friendly.
Alors, tu peux regarder avec tes enfants.
Ouais.
Ensuite, tu peux aller au voyage de Chihiro, qui est pour des enfants un peu plus adultes.
Bah. Peut-être avec Totoro. Avec Totoro, il y a Ponyo aussi qui est.
Voyage au bout de l'enfer.
Ouais, c'est ça.
Voyage au bout de la nuit.
Disons que tu finis par.
Maman!
Tu finis par Princesse Mononoké, quoi.
Et Princesse Mononoké, là,
ah oui, ça, j'ai un truc que j'avais vu et ça m'avait bien traumatisé parce que c'est quand même ultra violent en fait aussi.
Ouais.
Ah, c'est très. Bah, oui.
C'est la nature, quoi. C'est magnifique. Simon, peut-être, toi.
Qu'est-ce que t'en as pensé?
Bah, j'ai adoré ce film. Donc, comme je disais, première partie un peu compliquée à mettre en place. J'étais pas sûr de savoir si j'avais vraiment kiffé. Après, ça, c'est bien parti, des beaux dessins. J'aime beaucoup la façon dont ils représentent l'eau et le vent.
Ouais.
J'adore ces scènes-là.
Alors, moi, il y a eu un truc au tout début. La première fois, quand il découvre la maison, je suis d'accord avec toi. Il regarde le ruisseau.
Le ruisseau, il est magique.
Et en fait,
magique.
Dis, merde, tout est fait à la main. Ouais. Et il y a une ombre sur l'eau. Et il arrive à nous montrer ça.
C'est
vraiment ce plan au-dessus de
le vent. Enfin,
ah oui. Comme un fou. Je suis d'accord avec toi.
Franchement, j'ai adoré ces passages-là. Je trouve que le gars est, même au niveau des couleurs, quand on touche à la forêt, c'est vraiment des couleurs vives. C'est une ode à la nature. On est vraiment dans un décor bucolique.
T'as envie d'être dedans, quoi.
On a, franchement, c'était vraiment magique. Dedans. Après, ce que j'ai bien aimé aussi dans ce film, c'est toutes les références qu'il pouvait y avoir. Donc, il y a Alice avec le chat, le souterrain. Il y a partie d'autobiographie où ça fait référence à sa mère. Et j'aime beaucoup un passage sur la connotation religieuse de ce film, où il y aurait donc deux religions qui sont indiquées dans ce film-là. Donc, le bouddhisme et le shintoïsme.
Ah ouais.
Et en fait,
le shintokisme.
Ah oui, tu dis avec tous les trucs des arrêts de feinté, avec là où elle s'abrite, il y a des statues.
Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Et en fait, ce qui est bien, c'est que il fait référence aussi au Japon, où ces deux religions vivent en harmonie. Mm. Et il y a d'ailleurs une théorie, une hypothèse qui a été démentie par Miyazaki lui-même, mais qui part du principe que Totoro et tous les personnages fabuleux qui sont dans ce dessin animé sont des shinigami. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la religion...
Le papier, là, con.
Oui, c'est ça, les origami. En fait,
c'est comme dans ce
qu'il faut savoir, c'est que dans la religion bouddhiste, il y a la statuette de Jizo qui apparaît 6 fois dans le film, qui représente un dieu protecteur des enfants malades et qui accompagne les âmes des enfants décédés avant leurs parents. Et en fait, il y a théorie
En fait, elles sont juste complètement tarées, les deux petites, quoi.
Ouais, et puis, donc, la théorie de certains fans, donc démentie, je le rappelle, hein, c'est que, comme Totoro et tous les personnages sont des Shinigami, le principe serait que les deux fillettes peuvent voir les Totoro et ça signifie qu'elles sont proches de la mort.
D'accord.
Et ça coïncide apparemment avec les statuettes de Jizo qui sont présentes à des moments clés de l'œuvre et qu'à la fin du film, les sœurs montent dans le Shabus. Et
ça veut dire c'est la mort comme
et que
Daron,
en fait c'est le passage qui correspond au passage vers l'au-delà. Donc en fait et un autre
et
truc
quand elle se crucifie sur le chien croix, ça veut dire vraiment qu'elles sont mortes pour les péchés des Japonais.
Moi j'ai trouvé que leur éjaculation à ce moment-là était un peu too much. Mais
comment enchaîner? Alors je vais faire tout de suite. Il y a aussi un parallèle qui est fait avec une affaire de meurtre et d'enlèvement sordide qui s'est déroulé 20 ans auparavant au Japon et apparemment il existerait plusieurs similitudes entre cette histoire et le récit de Miyazaki dans ce livre-là.
Je vous dis que j'ai vu un énorme ours. Les piquer,
notamment
les mettre sur son ventre,
notamment
sur une toupie.
C'est ce qu'ils disent tous. Allez, viens par là, mon gars.
Notamment sur l'histoire de la petite sandale qui traîne.
Ah bah oui, ouais.
Et je dirais juste, voilà, pour terminer là-dessus, parce que tu parles des significations, c'est que ce film-là, t'as une signification derrière tous les films de Miyazaki. Ça parle toujours de la nature. Mais là, ce qu'il voulait démontrer, c'était la simplicité et la beauté de la vie en nature. Donc, tu as ce truc un petit peu dramatique qui est sous-tendu, mais tu as derrière quand même une vraie volonté, c'est de démontrer que la nature, c'est très beau. Et on passe à Cécile pour nous dire
ça. Bah oui, c'est beau, la nature.
Cécile, tu as pensé quoi, en fait?
En fait. Bah alors, Raphaël. Bah, c'était super.
Cécile, la dernière fois, tu avais adoré qu'on parle de Sonomi. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux faire avec la nature?
Eh ben écoute, j'ai adoré le film. J'étais contente de le revoir parce que tous les Miyazaki que j'ai revus à peu près 15 fois, même plus, c'était un des seuls que je n'avais pas revu. Et je suis très contente de l'avoir revu car je trouve qu'il est aussi bien que les autres. Et maintenant, ça me fera un nouveau Miyazaki à regarder chaque année. Et je suis d'accord avec tout ce qu'ont dit les autres. C'est magnifique, la musique est magnifique et l'eau de la nature est magnifique et le message dans les films de Miyazaki est toujours important et utile. Et toi, Gaspard?
Alors moi, je vais enfin vous dire les 4 vérités. Je trouve que c'est con. Je trouve ça bête. Non, bah évidemment, enfin, je sais pas comment pas être d'accord avec vous, et surtout, enfin, le seul truc que je peux rajouter parmi tout ce que les propos que vous avez portés, c'est juste que c'est
les soldes à Montmartre.
C'est peut-être même limite arrogant de provocation par moment, ce qui fait, ça fait un peu en mode genre. Ouais, ben, je vais dessiner une plaine, mais je la dessine comme ça. Et tu sais pas foutu de le faire, toi. Hein. et t'as envie de dire, genre, ouais, t'aurais pu juste dessiner une plaine, t'es pas obligé de te la péter non plus. Et...
Tu connais la poésie?
C'est ça. Après, je trouve ça très beau. Je sais que, même si je suis pas un fan, alors je suis mal placé pour le dire, je sais que Chihiro, j'ai eu l'occasion de m'en parler, c'était un vrai choc quand j'étais gamin. Je l'ai pas revu peut-être depuis 15 ans, donc faudrait que je le revoie. Mais en règle générale, c'est assez fou. Et surtout, on voit son influence sur le cinéma. Parce qu'en fait c'est ultra découpé, c'est ultra efficace et c'est un truc de pur mouvement en fait constamment. Donc, je trouve ça très très bien. Ça me permet peut-être de lancer sur les recommandations. Raph, est-ce que t'as des petites recos dans le sens miyazakien?
Ah bah oui, très clairement. Moi je vais vous parler. Alors j'ai eu une grosse séquence. Ma mère m'emmenait voir en fait tous les films japonisants comme on dit. On faisait des sorties pour ça. Et un de ceux qui m'a marqué, qui est pas un Miyazaki, parce que bon, Miyazaki, voilà, tout simplement, allez tous les voir. Hein, y en a pas un qui ne valent pas le coup. C'est tous magnifiques. Mais je vous recommande d'aller voir Steamboy, de Katsuhiro Otomo, qui est tout simplement Katsuhiro Otomo, qui est le créateur de Akira, donc plutôt connu. Vous reconnaîtrez le trait, hein, si vous le voyez. Steam Boy, qui est un des films, pareil, que quand j'ai vu, j'étais petit, qui encore aujourd'hui hante ma mémoire, tellement c'était fort. Voilà, donc c'est superbe, super sympa. Allez le voir, ça vaut le coup.
Toi, Simon ?
Eh ben, sans les avoir vus, je pense que je peux facilement recommander de, comme tu le disais, Raphaël, de voir tous les Miyazaki. Je pense que je vais me les taper pendant la saison hivernale.
Oui, surtout Gentai.
Et pour la vraie reco, les Cassos. Cassos ouais. Saison 1, 2, 3 et teasing, la saison 4 sort l'année prochaine.
Sérieux ?
Ah ouais,
ils ont annoncé, ouais, ça va sortir.
Donc en vrai, ça va être un pur plaisir. Détruisez votre enfance à l'aide de cette série.
Et non pas
série,
un pur player.
Oui, sans modération.
Magique, les Cassos.
Ah oui.
Cécile.
Eh bien, moi aussi, je recommande tous les Miyazaki.
Les Cassos.
D'ailleurs, on pourrait. Le dernier Miyazaki, c'est Le Vent se lève. Et c'est assez marrant parce que le mec dans Le Vent se lève, il ressemble vachement au père dans Totoro. Et sa femme, elle est la tuberculose. Sauf
bah,
que dans,
la maman
sauf que
de...
dans Le Vent se lève,
elle, meurt.
Elle meurt. Du coup, j'ai l'impression que Le Vent se lève, c'est la version dark.
Parce que moi, Le Vent se lève, je l'avais vu aussi.
Le Vent se lève, c'est le seul qui est inspiré d'un vrai personnage.
Il y a combien d'enfants?
Oui, bah, c'est pas inspiré de son père.
Non, c'est inspiré d'un grand.
D'un mec, un aviateur.
Un grand aviateur, oui.
Oui, mais en tout cas, Le Vent se lève, pour moi, c'est orange, c'est pas long, je l'avais vu en salle.
Et pas Ken Loach.
Non, mais c'est un truc très adulte, en fait.
Ah, c'est très adulte.
Je sais pas comment on peut emmener les enfants voir Le Vent se lève, par exemple. C'est vraiment pas
le dessin est magnifique.
Est-ce que.
Le tremblement de terre dans Le Vent se lève, c'était une séquence absolument extraordinaire.
Est-ce que Mon Voisin Totoro est le seul film qui est vraiment destiné aux enfants?
Non, il y a Pogno sur la falaise aussi.
Ok, d'accord. Parce que c'est quand même, c'est quand même assez.
Kiki la petite sorcière aussi.
Il y en a certains qui sont assez dark, quoi, en fait.
Non, bah, Château ambulant, Château dans le ciel.
Château ambulant.
Je pense que Chihiro, ça fait partie en fait des trucs entre deux âges.
Ah, Chihiro pour moi,
c'est aussi adulte, c'est très très dark.
C'est très adulte, mais tu peux le montrer à un gamin qui a 10 ans.
Et toi,
du coup, j'ai pas fini quand même.
Ah bah non, mais Cécile.
Et du coup, on en a déjà parlé. J'en avais déjà parlé lors de l'épisode qu'on a fait à propos de Bong Joon-ho.
Ah.
Sur The Host, et j'avais déjà parlé de Miyazaki à ce moment-là.
Ah.
Et du coup, là, je me permets du coup de parler de Bong Joon-ho.
Ah.
Et de recommander.
C'est toujours une bonne occasion.
Voilà. Et de recommander un cinéaste coréen. On va pas faire d'amalgame. Qui, dont le travail est inspiré, s'inspire, enfin, dans les deux sens, de Miyazaki beaucoup.
Et notamment voilà. Un film. Où il a recréé,
Okja.
Voilà, Okja, où il avait plutôt recréé l'idylle entre Mei et Totoro, avec cette petite et son cochon Okja.
Voilà.
Normalement, il refaisait un plan en plus qui était assez. Où la petite dormait sur le gros ventre du cochon géant, parce que oui, c'est l'histoire d'un cochon géant, c'est
et
génial.
Et toi, Gaspard ?
Eh ben, moi, bah, non seulement je soutiens énormément cette recommandation pour Okja de Bong Joon-ho, parce que on l'a déjà dit, on en a déjà parlé il y a pas longtemps pendant un épisode de Bug. Ça fait toujours du bien de parler de Bong Joon-ho.
Toujours.
Et limite, ça peut être la seule rêve qu'on peut avoir à chaque fois, parce que regarder les films de ce mec, c'est un génie. Moi, j'avais une autre co d'un cinéaste que je porte pas forcément au plus haut, mais qui a fait une superbe adaptation de Maurice Sendak. C'est Spike Jonze qui avait adapté Max et les Maximons, et qui en fait avait fait une très belle adaptation, très violente, très noire et très réaliste, un peu dans l'idée de Miyazaki, du coup de ce bouquin Where the Wild Things Are, Max et les Maximons en français, et qui est quelque chose
c'est
d'absolument
stylé en français pour une fois.
Ah non, mais sauf que bah moi c'est un truc que je sais pas pourquoi mes parents me lisaient en allemand quand j'étais petit, et on n'a pas la même
Maximons. Maximons doesn't hear,
et c'était autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est absolument sublime sur ce rapport à l'enfance qui essaie de réinterpréter ce qu'il voit en le canalisant dans ses rêves et en fait en voyant ce qui peut paraître cauchemardesque, bah, finalement comme un ami. Je trouve ça absolument sublime. En revanche, ça nous permet absolument pas, pourquoi je dis en revanche,
bah oui,
d'enchaîner.
Et donc on peut commencer à enchaîner avec ta conclusion.
La semaine prochaine, on va parler des culottés.
Évidemment, ça paraît tout à fait logique.
Exactement. Et ça va être quelque chose d'assez incroyable, je vous
le
promets.
De Penelope Bagieu, oui.
Ouais, ça va être quelque chose de formidable.
Le premier geste militant.
Bon, on a déjà fait plein de gestes militants, et moi je porte plus de soutien-gorge, ok?
Ouais.
Bon.
Puis moi j'ai même fait des gestes déplacés militants. Voilà. Alors, c'est pour te dire. Hein. Non, c'est pour dire que si on se voit pour la prochaine fois parler cinéma le 13 décembre, on va parler d'un autre film à nouveau à vision d'enfant, puisqu'on parlera
c'est clair.
De quelqu'un qui a un intellect, mais au-dessus de tous.
Là, il a su rester un grand enfant surtout.
Un su rester un grand enfant. Chut. On va pas trop dévoiler.
C'est la biographie de Chirac.
Exactement. Par le réalisateur de Retour à le futur. Merci à toi Simon d'être venu. Merci à toi vous. Cécile.
Merci.
Merci au maître de la peinture et du dessin.
Merci à toi Gaspard. On vous fait tous des gros bisous. N'hésitez pas à liker, partager.
On est sur Instagram maintenant. On est sur Facebook. On est pas encore sur Twitter.
C'est quoi Instagram exactement?
Instagram, c'est l'heure et grave tout attaché avec un tiret du bas ensuite. N'hésitez pas à nous suivre. On est suivi par Emmanuel Macron et par Will Smith. Donc il vous suffit d'aller sur leurs abonnements pour nous retrouver.
Wiki Wild Wild Retraite.
Exactement. Merci à tous et on vous aime énormément.
Bisous.
Bonne soirée. Salut.